La prisonnière, première partie, suite 3. On se souvient peut-être que Morel avait jadis dit au baron que son désir, c'était de séduire une jeune fille, en particulier celle-là, et que pour y réussir, il lui promettrait le mariage, et, le viol accompli, il ficherait le camp au loin. Mais cela, devant les aveux d'amour pour la nièce de Jupien que Morel était venu lui faire, monsieur de Charlus l'avait oublié. Bien plus, il en était peut-être de même pour Morel. Il y avait peut-être intervalle véritable entre la nature de Morel, telle qu'il l'avait cyniquement avouée, peut-être même habilement exagérée, et le moment où elle reprendrait le dessus. En se liant davantage avec la jeune fille, elle lui avait plu, il l'aimait. Il se connaissait si peu qu'il se figurait sans doute l'aimer, même peut-être l'aimer pour toujours. Certes, son premier désir initial, son projet criminel, subsistait, mais recouvert par tant de sentiments superposés que rien ne dit que le violoniste n'eût pas été sincère, en disant que ce vicieux désir n'était pas le mobile véritable de son acte. Il y eut du reste une période de courte durée où, sans qu'il se l'avouât exactement, ce mariage lui parut nécessaire. Morel avait à ce moment-là d'assez fortes crampes à la main et se voyait obligé d'envisager l'éventualité d'avoir à cesser le violon. Comme, en dehors de son art, il était d'une incompréhensible paresse, la nécessité de se faire entretenir s'imposait, et il aimait mieux que ce fût par la nièce de Jupien que par monsieur de Charlus, cette combinaison lui offrant plus de liberté, et aussi un grand choix de femmes différentes, tant par les apprenties toujours nouvelles, qu'il chargerait la nièce de Jupien de lui débaucher, que par les belles dames riches auxquelles il la prostituerait. Que sa future femme pût refuser de condescendre à ses complaisances et fût perverse à ce point n'entrait pas un instant dans les calculs de Morel. D'ailleurs, ils passèrent au second plan. Ils laissèrent la place à l'amour pur, les crampes ayant cessé. Le violon suffirait avec les appointements de monsieur de Charlus, duquel les exigences se relâcheraient certainement une fois que lui, Morel, serait marié à la jeune fille. Le mariage était la chose pressée, à cause de son amour et dans l'intérêt de sa liberté. Il fit demander la main de la nièce de Jupien, lequel la consulta, aussi bien n'était-ce pas nécessaire. La passion de la jeune fille pour le violoniste ruisselait autour d'elle, comme ses cheveux quand ils étaient dénoués, comme la joie de ses regards répandus. Chez Morel, presque toute chose qui lui était agréable ou profitable éveillait des émotions morales et des paroles de même ordre, parfois même des larmes. C'est donc sincèrement, si un pareil mot peut s'appliquer à lui, qu'il tenait à la nièce de Jupien des discours aussi sentimentaux. Sentimentaux sont aussi ceux que tant de jeunes nobles, ayant envie de ne rien faire dans la vie, tiennent à quelques ravissantes jeunes filles de richissimes bourgeois, qui étaient d'une bassesse sans fard, celle qu'il avait exposée à monsieur de Charlus au sujet de la séduction, du dépucelage. Seulement, l'enthousiasme vertueux à l'égard d'une personne qui lui causait un plaisir et les engagements solennels qu'il prenait avec elle, avaient une contrepartie chez Morel. Dès que la personne ne lui causait plus de plaisir, ou même, par exemple, si l'obligation de faire face aux promesses faites lui causait du déplaisir, elle devenait aussitôt, de la part de Morel, l'objet d'une antipathie qu'il justifiait à ses propres yeux, et qui, après quelques troubles neurasthéniques, lui permettait de se prouver à soi-même, une fois l'euphorie de son système nerveux reconquise, qu'il était, en considérant même les choses d'un point de vue purement vertueux, dégagé de toute obligation. Ainsi, à la fin de son séjour à Balbec, il avait perdu je ne sais à quoi tout son argent et, n'ayant pas osé le dire à monsieur de Charlus, cherchait quelqu'un à qui en demander. Il avait appris de son père, qui malgré cela lui avait défendu de devenir jamais tapeur, qu'en pareil cas il est convenable d'écrire à la personne à qui on veut s'adresser, qu'on a à lui parler pour affaire, qu'on lui demande un rendez-vous pour affaire. Cette formule magique enchantait tellement Morel qu'il eût, je pense, souhaité perdre de l'argent rien que pour le plaisir de demander un rendez-vous pour affaire. Dans la suite de la vie, il avait vu que la formule n'avait pas toute la vertu qu'il pensait. Il avait constaté que des gens, auxquels lui-même n'eût jamais écrit sans cela, ne lui avaient pas répondu 5 minutes après avoir reçu la lettre pour parler affaire. Si l'après-midi s'écoulait sans que Morel eût de réponse, l'idée ne lui venait pas que, même à tout mettre au mieux, le monsieur sollicité n'était peut-être pas rentré, avait pu avoir d'autres lettres à écrire, si même il n'était pas parti en voyage, ou tombé malade, etc. Et si Morel recevait, par une fortune extraordinaire, un rendez-vous pour le lendemain matin, il abordait le sollicité par ces mots. « Justement, j'étais surpris de ne pas avoir de réponse. Je me demandais s'il y avait quelque chose. Alors, comme ça, la santé va toujours bien ?» etc. Donc, à Balbec, et sans me dire qu'il avait à lui parler d'une « affaire », il m'avait demandé de le présenter à ce même Bloch avec lequel il avait été si désagréable une semaine auparavant dans le train. Bloch n'avait pas hésité à lui prêter, ou plutôt à lui faire prêter par M. Nissim Bernard 5 000 francs. De ce jour, Morel avait adoré Bloch. Il se demandait, les larmes aux yeux, comment il pourrait rendre service à quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. Enfin, je me chargeais de demander pour Morel 1 000 francs par mois à M. de Charlus, argent que celui-ci remettrait aussitôt à Bloch, qui se trouverait ainsi remboursé assez vite. Le premier mois, Morel, encore sous l'impression de la bonté de Bloch, lui envoya immédiatement les 1 000 francs. Mais après cela, il trouva sans doute qu'un emploi différent des 4 000 francs qui restaient pourrait être plus agréable, car il commença à dire beaucoup de mal de Bloch. La vue de celui-ci suffisait à lui donner des idées noires. Et Bloch, ayant oublié lui-même exactement ce qu'il avait prêté à Morel, et lui ayant réclamé 3 500 francs au lieu de 4 000, ce qui eût fait gagner 500 francs au violoniste, ce dernier voulut répondre que, devant un pareil faux, non seulement il ne paierait plus un centime, mais que son prêteur devait s'estimer bien heureux qu'il ne déposât pas une plainte contre lui. En disant cela, ses yeux flambaient. Il ne se contenta pas, du reste, de dire que Bloch et M. Nissim Bernard n'avaient pas à lui en vouloir, mais bientôt qu'il devait se déclarer heureux qu'il ne leur en voulût pas. Enfin, M. Nissim Bernard ayant, paraît-il, déclarait que Thibault jouait aussi bien que Morel, celui-ci trouva qu'il devait l'attaquer devant les tribunaux, un tel propos lui nuisant dans sa profession. Puis, comme il n'y a plus de justice en France, surtout contre les Juifs, l'antisémitisme ayant été chez Morel l'effet naturel du prêt de 5 000 francs par un Israélite, il ne sortit plus qu'avec un revolver chargé. Un tel état nerveux, suivant une vive tendresse, devait bientôt se produire chez Morel relativement à la nièce du giletier. Il est vrai que M. de Charlus fut peut-être, sans s'en douter, pour quelque chose dans ce changement, car souvent il déclarait, sans en penser un seul mot, et pour les taquiner, qu'une fois mariés, il ne les reverrait plus et les laisserait voler de leurs propres ailes. Cette idée était, en elle-même, absolument insuffisante pour détacher Morel de la jeune fille. Restant dans l'esprit de Morel, elle était prête, le jour venu, à se combiner avec d'autres idées ayant de l'affinité pour elle et capable, une fois le mélange réalisé, de devenir un puissant agent de rupture. Ce n'était pas d'ailleurs très souvent qu'il m'arrivait de rencontrer M. de Charlus et Morel. Souvent, ils étaient déjà entrés dans la boutique de Jupien quand je quittais la duchesse, car le plaisir que j'avais auprès d'elle était tel que j'en venais à oublier non seulement l'attente anxieuse qui précédait le retour d'Albertine, mais même l'heure de ce retour. Je mettrai à part, parmi ces jours où je m'attardais chez Madame de Guermantes, un qui fut marqué par un petit incident dont la cruelle signification m'échappa entièrement et ne fut comprise par moi que longtemps après. Cette fin d'après-midi-là, Madame de Guermantes m'avait donné, parce qu'elle savait que je les aimais, des seringas venues du midi. Quand, ayant quitté la duchesse, je remontai chez moi, Albertine était rentrée. Je croisai dans l'escalier André, que l'odeur si violente des fleurs que je rapportais sembla incommoder. « Comment, vous êtes déjà rentrée ? » lui dis-je. « Il n'y a qu'un instant, mais Albertine avait à écrire, elle m'a renvoyée. » « Vous ne pensez pas qu'elle ait quelque projet blâmable ?»« Nullement, elle écrit à sa tante, je crois. » Mais elle qui n'aime pas les odeurs fortes ne sera pas enchantée de vos seringas. Alors j'ai eu une mauvaise idée. Je vais dire à Françoise de les mettre sur le carré de l'escalier de service. Si vous vous imaginez qu'Albertine ne sentira pas après vous l'odeur de seringas, avec l'odeur de la tubéreuse, c'est peut-être la plus entêtante. D'ailleurs, je crois que Françoise est allée faire une course. « Mais alors, moi qui n'ai pas d'aujourd'hui ma clé, comment pourrais-je rentrer ?»« Oh, vous n'aurez qu'à sonner, et Albertine vous ouvrira. Et puis Françoise sera peut-être remontée dans l'intervalle. » Je dis adieu à André. Dès mon premier coup, Albertine vint m'ouvrir, ce qui fut assez compliqué, car Françoise étant descendue, Albertine ne savait pas où allumer. Enfin, elle put me faire entrer, mais les fleurs de seringa la mirent en fuite. Je les posai dans la cuisine, de sorte qu'interrompant sa lettre, je ne compris pas pourquoi, mon amie eut le temps d'aller dans ma chambre, d'où elle m'appela, et de s'étendre sur mon lit. Encore une fois, au moment même, je ne trouvais à tout cela rien que de très naturel, tout au plus d'un peu confus, en tout cas d'insignifiant. Elle avait failli être surprise avec André et s'était donné un peu de temps en éteignant tout, en allant chez moi pour ne pas laisser voir son lit en désordre et avait fait semblant d'être en train d'écrire. Mais on verra tout cela plus tard, tout cela dont je n'ai jamais su si c'était vrai. En général, et sauf cet incident unique, tout se passait normalement quand je remontais de chez la duchesse. Albertine ignorant si je ne désirais pas sortir avec elle avant le dîner, je trouvais d'habitude dans l'antichambre son chapeau, son manteau, son ombrelle qu'elle y avait laissée à tout hasard. Dès qu'en entrant je les apercevais, l'atmosphère de la maison devenait respirable. Je sentais qu'au lieu d'un air raréfié, le bonheur la remplissait. J'étais sauvée de ma tristesse. La vue de ces riens me faisait posséder Albertine. Je courais vers elle. Les jours où je ne descendais pas chez Madame de Guermantes, pour que le temps me semblât moins long durant cette heure qui précédait le retour de mon amie, je feuilletais un album d'Elstir, un livre de Bergotte, la sonate de Vinteuil. Alors, comme les œuvres mêmes qui semblent s'adresser seulement à la vue et à l'ouïe, exige que pour les goûter, notre intelligence éveillée collabore étroitement avec ses deux sens, je faisais, sans m'en douter, sortir de moi les rêves qu'Albertine y avait jadis suscités, quand je ne la connaissais pas encore, et qu'avait éteint la vie quotidienne. Je les jetais dans la phrase du musicien ou l'image du peintre comme dans un creuset, j'en nourrissais l'œuvre que je lisais. Et sans doute celle-ci m'en paraissait plus vivante. Mais Albertine ne gagnait pas moins à être ainsi transportée de l'un des deux mondes où nous avons accès et où nous pouvons situer tour à tour un même objet, à échapper ainsi à l'écrasante pression de la matière pour se jouer dans les fluides espaces de la pensée. Je me trouvais tout à coup, et pour un instant, pouvoir éprouver, pour la fastidieuse jeune fille, des sentiments ardents. Elle avait à ce moment-là l'apparence d'une œuvre d'Elstir ou de Bergotte. J'éprouvais une exaltation momentanée pour elle, la voyant dans le recul de l'imagination et de l'art. Bientôt, on me prévenait qu'elle venait de rentrer. Encore avait-on ordre de ne pas dire son nom si je n'étais pas seule. Si j'avais, par exemple, avec moi Bloch, que je forçais à rester un instant de plus, de façon à ne pas risquer qu'il rencontrât mon ami. Car je cachais qu'elle habitait la maison, et même que je la visse jamais chez moi, tant j'avais peur qu'un de mes amis s'amourachât d'elle, ne l'attendît dehors, ou que, dans l'instant d'une rencontre dans le couloir ou l'antichambre, elle pût faire un signe et donner un rendez-vous. Puis, j'entendais le bruissement de la jupe d'Albertine se dirigeant vers sa chambre, car, par discrétion et sans doute aussi par ses égards, où, autrefois, dans nos dîners à la Raspelière, elle s'était ingéniée pour que je ne fusse pas jaloux, elle ne venait pas vers la mienne, sachant que je n'étais pas seule. Mais ce n'était pas seulement pour cela. Je le comprenais tout à coup. Je me souvenais. J'avais connu une première Albertine, puis brusquement, elle avait été changée en une autre, l'actuelle. Et le changement, je n'en pouvais rendre responsable que moi-même. Tout ce qu'elle m'eût avoué facilement, puis volontiers, quand nous étions de bons camarades, avait cessé de s'épandre dès qu'elle avait cru que je l'aimais, ou, sans peut-être se dire le nom de l'amour, avait deviné un sentiment inquisitorial qui veut savoir, souffre pourtant de savoir, et cherche à apprendre davantage. Depuis ce jour-là, elle m'avait tout caché. Elle se détournait de ma chambre si elle pensait que j'étais, non pas même souvent, avec un ami, mais avec une amie. Elle, dont les yeux s'intéressaient jadis si vivement quand je parlais d'une jeune fille. Il faut tâcher de la faire venir, ça m'amuserait de la connaître. Mais elle a ce que vous appelez mauvais genre. Mais justement, ce sera bien plus drôle. À ce moment-là, j'aurais peut-être pu tout savoir. Et même quand, dans le petit casino, elle avait détaché ses seins de ceux d'André, je ne crois pas que ce fût à cause de ma présence, mais de celle de Cottard, lequel lui aurait fait, pensait-elle sans doute, une mauvaise réputation. Et pourtant, alors, elle avait déjà commencé de se figer. Les paroles confiantes n'étaient plus sorties de ses lèvres, ses gestes étaient réservés. Puis elle avait écarté d'elle tout ce qui aurait pu m'émouvoir. Aux parties de sa vie que je ne connaissais pas, elle donnait un caractère dont mon ignorance se faisait complice pour accentuer ce qu'il avait d'inoffensif. Et maintenant, la transformation était accomplie. Elle allait droit à sa chambre si je n'étais pas seule. Non pas seulement pour ne pas déranger, mais pour me montrer qu'elle était insoucieuse des autres. Il y avait une seule chose qu'elle ne ferait jamais plus pour moi, qu'elle n'aurait faite qu'autant où cela m'eût été indifférent, qu'elle aurait faite aisément à cause de cela même. C'était précisément avoué. J'en serais réduit pour toujours, comme un juge, à tirer des conclusions incertaines d'imprudence de langage qui n'étaient peut-être pas inexplicables, sans avoir recours à la culpabilité. Et toujours elle me sentirait jaloux et juge. Tout en écoutant les pas d'Albertine, avec le plaisir confortable de penser qu'elle ne ressortirait plus ce soir, j'admirais que, pour cette jeune fille dont j'avais cru autrefois ne pouvoir jamais faire la connaissance, rentrer chaque jour chez elle ce fut précisément rentrer chez moi. Le plaisir, fait de mystère et de sensualité que j'avais éprouvé, fugitif et fragmentaire, à Balbec, le soir où elle était venue coucher à l'hôtel, s'était complété, stabilisé, remplissait ma demeure, jadis vide, d'une permanente provision de douceur domestique, presque familiale, rayonnant jusque dans les couloirs, et de laquelle tous mes sens, tantôt effectivement, tantôt dans les moments où j'étais seule, en imagination et par l'attente du retour, se nourrissaient paisiblement. Quand j'avais entendu se refermer la porte de la chambre d'Albertine, si j'avais un ami avec moi, je me hâtais de le faire sortir, ne le lâchant que quand j'étais bien sûre qu'il était dans l'escalier, dont je descendais au besoin quelques marches. Il me disait que j'allais prendre mal, me faisant remarquer que notre maison était glaciale, pleine de courants d'air, et qu'on le paierait bien cher pour qu'il y habitât. De ce froid, on se plaignait, parce qu'il venait seulement de commencer et qu'on n'y était pas habitué encore. Mais pour cette même raison, il déchaînait en moi une joie qu'accompagnait le souvenir inconscient des premiers soirs d'hiver ou autrefois, revenant de voyage, pour reprendre contact avec les plaisirs oubliés de Paris, j'allais au café-concert. Aussi, est-ce en chantant qu'après avoir quitté mon ancien camarade, je remontais l'escalier et rentrais. La belle saison, en s'enfuyant, avait emporté les oiseaux, mais d'autres musiciens invisibles, intérieurs, les avaient remplacés. Et la bise glacée dénoncée par Bloch, et qui soufflait délicieusement par les portes mal jointes de notre appartement, était, comme les beaux jours de l'été par les oiseaux des bois, éperdument saluée de refrains, inextinguiblement fredonnés, de Fraxon, de Maillol ou de Paulus. Dans le couloir, au-devant de moi, venait Albertine. « Tenez, pendant que j'ôte mes affaires, je vous envoie André. Elle est montée une seconde pour vous dire bonsoir. » Ayant encore autour d'elle le grand voile gris qui descendait de la toque de chinchilla et que je lui avais donné à Balbec, elle se retirait et rentrait dans sa chambre, comme si elle eût deviné qu'André, chargé par moi de veiller sur elle, allait, en me donnant main détail, en me faisant mention de la rencontre par elle deux d'une personne de connaissance, apporter quelques déterminations aux régions vagues où s'était déroulée la promenade qu'elles avaient faite toute la journée et que je n'avais pu imaginer. Les défauts d'André s'étaient accusés. Elle n'était plus aussi agréable que quand je l'avais connue. Il y avait maintenant chez elle, à fleur de peau, une sorte d'aigre inquiétude, prête à s'amasser comme à la mer un grain, si seulement je venais à parler de quelque chose qui était agréable pour Albertine et pour moi. Cela n'empêchait pas qu'André pût être meilleur à mon égard, m'aimer plus, et j'en ai eu souvent la preuve, que des gens plus aimables. Mais le moindre air de bonheur qu'on avait, s'il n'était pas causé par elle, lui produisait une impression nerveuse, désagréable, comme le bruit d'une porte qu'on ferme trop fort. Elle admettait les souffrances où elle n'avait point de part, non les plaisirs. Si elle me voyait malade, elle s'affligeait, me plaignait, m'aurait soignée. Mais si j'avais une satisfaction aussi insignifiante que de m'étirer d'un air de béatitude en fermant un livre et en disant « Ah, je viens de passer 2 heures charmantes à lire tel livre amusant. » Ces mots, qui eussent fait plaisir à ma mère, à Albertine, à Saint-Loup, excitaient chez André une espèce de réprobation, peut-être simplement de malaise nerveux. Mes satisfactions lui causaient un agacement qu'elle ne pouvait cacher. Ces défauts étaient complétés par de plus graves. Un jour que je parlais de ce jeune homme si savant en choses de course, de jeu, de golf, si inculte dans tout le reste, que j'avais rencontré avec la petite bande à Balbec, André se mit à ricaner. « Vous savez que son père a volé ? il a failli y avoir une instruction ouverte contre lui. Ils veulent crâner d'autant plus, mais je m'amuse à le dire à tout le monde. Je voudrais qu'il m'attaque en dénonciation calomnieuse. Quelle belle déposition je ferais !» Ses yeux étincelaient. Or, j'appris que le père n'avait rien commis d'indélicat, qu'André le savait aussi bien que quiconque. Mais elle s'était crue méprisée par le fils, avait cherché quelque chose qui pourrait l'embarrasser, lui faire honte, avait inventé tout un roman de déposition qu'elle était imaginairement appelée à faire. Et, à force de s'en répéter les détails, ignorait peut-être elle-même s'il n'était pas vrai. Ainsi, telle qu'elle était devenue, et même sans ses haines courtes et folles, je n'aurais pas désiré la voir, ne fût-ce qu'à cause de cette malveillante susceptibilité qui entourait d'une ceinture aigre et glaciale sa vraie nature plus chaleureuse et meilleure. Mais les renseignements qu'elle seule pouvait me donner sur mon ami m'intéressaient trop pour que je négligeasse une occasion si rare de les apprendre. André entrait, fermait la porte derrière elle. Elles avaient rencontré une amie, et Albertine ne m'avait jamais parlé d'elle. Qu'ont-elles dit ? Je ne sais pas, car j'ai profité de ce qu'Albertine n'était pas seule pour aller acheter de la laine.
Acheter de la laine ?
Oui, c'est Albertine qui me l'avait demandé.
Raison de plus pour ne pas y aller, c'était peut-être pour vous éloigner.
Mais elle me l'avait demandé avant de rencontrer son amie.
Ah !
Répondais-je en retrouvant la respiration. Aussitôt mon soupçon me reprenait.
Mais qui sait si elle n'avait pas donné d'avance rendez-vous à son amie, et n'avait pas combiné un prétexte pour être seule quand elle le voudrait?
D'ailleurs, étais-je bien certain que ce n'était pas la vieille hypothèse, celle où André ne me disait pas que la vérité, qui était la bonne? André était peut-être d'accord avec Albertine.
De l'amour, me disais-je à Balbec, on en a pour une personne dont notre jalousie semble plutôt avoir pour objet les actions. On sent que si elle vous les disait toutes, on guérirait peut-être facilement d'aimer. La jalousie a beau être habilement dissimulée par celui qui l'éprouve, elle est assez vite découverte par celle qui l'inspire et qui use à son tour d'habileté. Elle cherche à nous donner le change sur ce qui pourrait nous rendre malheureux. Et elle nous le donne, car à celui qui n'est pas averti, pourquoi une phrase insignifiante révélerait-elle les mensonges qu'elle cache? Nous ne la distinguons pas des autres. Dite avec frayeur, elle est écoulée sans attention. Plus tard, quand nous serons seuls, nous reviendrons sur cette phrase, elle ne nous semblera pas tout à fait adéquate à la réalité. Mais cette phrase, nous la rappelons-nous bien? Il semble que naisse spontanément en nous, à son égard et quant à l'exactitude de notre souvenir, un doute, du genre de ceux qui font qu'au cours de certains états nerveux, on ne peut jamais se rappeler si on a tiré le verrou, et pas plus à la 50e fois qu'à la première. On dirait qu'on peut recommencer indéfiniment l'acte sans qu'il s'accompagne jamais d'un souvenir précis et libérateur. Au moins, pouvons-nous refermer une 51e fois la porte, tandis que la phrase inquiétante est au passé, dans une audition incertaine qu'il ne dépend pas de nous de renouveler. Alors, nous exerçons notre attention sur d'autres qui ne cachent rien. Et le seul remède, dont nous ne voulons pas, serait de tout ignorer pour n'avoir pas le désir de mieux savoir. Dès que la jalousie est découverte, elle est considérée, par celle qui en est l'objet, comme une défiance qui autorise la tromperie. D'ailleurs, pour tâcher d'apprendre quelque chose, c'est nous qui avons pris l'initiative de mentir, de tromper. André, Aimé, nous promettent bien de ne rien dire, mais le feront-ils? Bloch n'a rien pu promettre puisqu'il ne savait pas. Et pour peu qu'elle cause avec chacun des trois, Albertine, à l'aide de ce que Saint-Loup eut appelé des recoupements, saura que nous lui mentons quand nous nous prétendons indifférents à ses actes et moralement incapables de la faire surveiller. Ainsi succédant, relativement à ce que faisait Albertine, à mon infini doute habituel, trop indéterminé pour ne pas rester indolore, et qui était à la jalousie ce que sont au chagrin ces commencements de l'oubli, où l'apaisement naît du vague, le petit fragment de réponse que venait de m'apporter André posait aussitôt de nouvelles questions. Je n'avais réussi, en explorant une parcelle de la grande zone qui s'étendait autour de moi, qu'à y reculer cet inconnaissable qu'est pour nous, quand nous cherchons effectivement à nous la représenter, la vie réelle d'une autre personne. Je continuais à interroger André, tandis qu'Albertine, par discrétion et pour me laisser, devinait-elle celle-là, tout le loisir de la questionner, prolongeait son déshabillage dans sa chambre. Je crois que l'oncle et la tante d'Albertine m'aiment bien, disais-je étourdiment à André, sans penser à son caractère. Aussitôt, je voyais son visage gluant se gâter. Comme un sirop qui tourne, il semblait à jamais brouillé. Sa bouche devenait amère. Il ne restait plus rien à André de cette juvénile gaieté que, comme toute la petite bande et malgré sa nature souffreteuse, elle déployait l'année de mon premier séjour à Balbec, et qui maintenant, il est vrai qu'André avait pris quelques années depuis lors, s'éclipsait si vite chez elle. Mais j'allais la faire involontairement renaître avant qu'André m'eût quitté pour aller dîner chez elle. Il y a quelqu'un qui m'a fait aujourd'hui un immense éloge de vous, lui disais-je. Aussitôt un rayon de joie illuminait son regard. Elle avait l'air de vraiment m'aimer. Elle évitait de me regarder, mais riait dans le vague, avec deux yeux devenus soudain tout ronds. « Qui ça ?» demandait-elle dans un intérêt naïf et gourmand. Je le lui disais, et qui que ce fût, elle était heureuse. Puis arrivée l'heure de partir, elle me quittait. Albertine revenait auprès de moi. Elle s'était déshabillée, elle portait quelqu'un des jolis peignoirs en crêpe de Chine ou des robes japonaises dont j'avais demandé la description à Madame de Guermantes. Et pour plusieurs desquelles certaines précisions supplémentaires m'avaient été fournies par Madame Swann, dans une lettre commençant par ces mots « Après votre longue éclipse, j'ai cru, en lisant votre lettre relative à mes Théa Gomes, recevoir des nouvelles d'un revenant. » Albertine avait au pied des souliers noirs ornés de brillants que Françoise appelait rageusement des socs, pareils à ceux que, par la fenêtre du salon, elle avait aperçu que Madame de Guermantes portait chez elle le soir. De même qu'un peu plus tard, Albertine eut des mules, certaines en chevreau doré, d'autres en chinchilla, et dont la vue m'était douce parce qu'elles étaient les unes et les autres comme les cygnes, que d'autres souliers n'eussent pas été, qu'elle habitait chez moi. Elle avait aussi des choses qui ne venaient pas de moi, comme une belle bague d'or. J'y admirais les ailes éployées d'un aigle. « C'est ma tante qui me l'a donnée, » me dit-elle. « Malgré tout, elle est quelquefois gentille. Cela me vieillit parce qu'elle me l'a donnée pour mes 20 ans. » Albertine avait, pour toutes ces jolies choses, un goût bien plus vif que la duchesse, parce que, comme tout obstacle à porter à une possession, telle pour moi la maladie qui me rendait les voyages si difficiles et si désirables, la pauvreté, plus généreuse que l'opulence, donne aux femmes, bien plus que la toilette qu'elles ne peuvent pas acheter, le désir de cette toilette qui en est la connaissance véritable, détaillée, approfondie. Elle, parce qu'elle n'avait pu s'offrir ces choses, moi, parce qu'en les faisant faire, je cherchais à lui faire plaisir, nous étions comme des étudiants, connaissant tout d'avance des tableaux qu'ils sont avides d'aller voir à Dresde ou à Vienne. Tandis que les femmes riches, au milieu de la multitude de leurs chapeaux et de leurs robes, sont comme ces visiteurs à qui la promenade dans un musée, n'étant précédée d'aucun désir, donne seulement une sensation d'étourdissement, de fatigue et d'ennui. Tel toque, tel manteau de zibeline, tel peignoir de Doucet, aux manches doublées de roses, prenaient pour Albertine, qui les avait aperçus, convoités, et grâce à l'exclusivisme et à la minutie qui caractérise le désir, les avait à la fois isolés du reste, dans un vide sur lequel se détachait à merveille la doublure ou l'écharpe, et connus dans toutes leurs parties, et pour moi, qui étais allé chez madame de Guermantes, tâcher de me faire expliquer en quoi consistait la particularité, la supériorité, le chic de la chose et l'inimitable façon du grand faiseur, une importance, un charme, qu'il n'avait certes pas pour la duchesse, rassasiée avant même d'être en état d'appétit, ou même pour moi, si je les avais vus quelques années auparavant, en accompagnant telle ou telle femme élégante en une de ces ennuyeuses tournées chez les couturières. Certes, une femme élégante, Albertine, peu à peu, en devenait une. Car si chaque chose que je lui faisais faire, ainsi, était en son genre la plus jolie, avec tous les raffinements qui eussent apporté madame de Guermantes ou madame Swann, de ces choses, elle commençait à avoir beaucoup. Mais peu importait, du moment qu'elle les avait aimées d'abord et isolément. Quand on a été épris d'un peintre, puis d'un autre, on peut à la fin avoir pour tout le musée une admiration qui n'est pas glaciale, car elle est faite d'amours successives, chacune exclusive en son temps, et qui à la fin se sont mises bout à bout et conciliées. Elle n'était pas frivole du reste, lisait beaucoup quand elle était seule et me faisait la lecture quand elle était avec moi. Elle était devenue extrêmement intelligente. Elle disait, en se trompant d'ailleurs, « Je suis épouvantée en pensant que sans vous je serais restée stupide. Ne le niez pas, vous m'avez ouvert un monde d'idées que je ne soupçonnais pas. Et le peu que je suis devenue, je ne le dois qu'à vous. » On sait qu'elle avait parlé semblablement de mon influence sur André. L'une ou l'autre avait-elle un sentiment pour moi? Et, en elle-même, qu'étaient Albertine et André? Pour le savoir, il faudrait vous immobiliser. Ne plus vivre dans cette attente perpétuelle de vous où vous passez toujours autre. Il faudrait ne plus vous aimer pour vous fixer. Ne plus connaître votre interminable et toujours déconcertante arrivée, ô jeune fille, ô rayons successifs dans le tourbillon, où nous palpitons de vous voir reparaître, en ne vous reconnaissant qu'à peine, dans la vitesse vertigineuse de la lumière. Cette vitesse, nous l'ignorerions peut-être, et tout nous semblerait immobile, si un attrait sexuel ne nous faisait courir vers vous. Goutte d'or, toujours dissemblable et qui dépasse toujours notre attente. À chaque fois, une jeune fille ressemble si peu à ce qu'elle était à la fois précédente, mettant en pièces, dès que nous l'apercevons, le souvenir que nous avions gardé et le désir que nous nous proposions, que la stabilité de nature que nous lui prêtons n'est que fictive et pour la commodité du langage. On nous a dit qu'une belle jeune fille est tendre, aimante, pleine des sentiments les plus délicats. Notre imagination le croit sur parole. Et quand nous apparaît, pour la première fois, sous la ceinture crépelée de ses cheveux blonds, le disque de sa figure rose, nous craignons presque que cette trop vertueuse sœur nous refroidisse par sa vertu même, ne puisse jamais être pour nous l'amante que nous avons souhaitée. Du moins, que de confidences nous lui faisons dès la première heure sur la foi de cette noblesse de cœur. Que de projets convenus ensemble. Mais quelques jours après, nous regrettons de nous être tant confiés, car la rose jeune fille rencontrée nous tient, la seconde fois, les propos d'une lubrique furie. dans les faces successives qu'après une pulsation de quelques jours nous présente la rose lumière interceptée, il n'est même pas certain qu'un movimentum extérieur à ces jeunes filles n'ait pas modifié leur aspect. Et cela avait pu arriver pour mes jeunes filles de Balbec. On vous vante la douceur, la pureté d'une vierge. Mais après cela, on sent que quelque chose de plus pimenté vous plairait mieux, et on lui conseille de se montrer plus hardie. En soi-même, était-elle plutôt l'une ou l'autre? Peut-être pas, mais capable d'accéder à tant de possibilités diverses dans le courant vertigineux de la vie. Pour une autre, dont tout l'attrait résidait dans quelque chose d'implacable, que nous comptions fléchir à notre manière, comme par exemple pour la terrible sauteuse de Balbec qui effleurait dans ses bonds les crânes des vieux messieurs épouvantés. Quelle déception quand, dans la nouvelle face offerte par cette figure, au moment où nous lui disions des tendresses exaltées par le souvenir de tant de dureté envers les autres, nous l'entendions, comme entrée de jeu, nous dire qu'elle était timide, qu'elle ne savait jamais rien dire de sensé à quelqu'un la première fois, tant elle avait peur, et que ce n'est qu'au bout d'une quinzaine de jours qu'elle pourrait causer tranquillement avec nous. L'acier était devenu coton. Nous n'aurions plus rien à essayer de briser, puisque d'elle-même, elle perdait toute consistance. D'elle-même, mais par notre faute, peut-être, car les tendres paroles que nous avions adressées à la dureté lui avaient peut-être, même sans qu'elle eût fait de calcul intéressé, suggéré d'être tendre. Ce qui nous désolait néanmoins n'était qu'à demi maladroit, car la reconnaissance pour tant de douceur allait peut-être nous obliger à plus que le ravissement devant la cruauté fléchie. Je ne dis pas qu'un jour ne viendra pas où, même à ces lumineuses jeunes filles, nous n'assignerons pas des caractères très tranchés. Mais c'est qu'elles auront cessé de nous intéresser, que leur entrée ne sera plus, pour notre cœur, l'apparition qui l'attendait, autre, et qui le laisse bouleversé, chaque fois, d'incarnations nouvelles. Leur immobilité viendra de notre indifférence, qui les livrera au jugement de l'esprit. Celui-ci ne conclura pas, du reste, d'une façon beaucoup plus catégorique, car après avoir jugé que tel défaut, prédominant chez l'une, était heureusement absent de l'autre, il verra que le défaut avait pour contrepartie une qualité précieuse. De sorte que du faux jugement de l'intelligence, laquelle n'entre en jeu que quand on cesse de s'intéresser, sortiront définis des caractères stables de jeunes filles, lesquels ne nous apprendront pas plus que les surprenants visages apparus chaque jour, quand, dans la vitesse étourdissante de notre attente, nos amies se présentaient tous les jours, toutes les semaines, trop différentes pour nous permettre, la course ne s'arrêtant pas, de classer, de donner des rangs. Pour nos sentiments, nous en avons parlé trop souvent pour le redire. Bien souvent, un amour n'est que l'association d'une image de jeune fille, qui sans cela eût été vite insupportable, avec les battements de cœur inséparables d'une attente interminable, vaine, et d'un lapin que la demoiselle nous a posé. Tout cela n'est pas vrai seulement pour les jeunes gens imaginatifs devant les jeunes filles changeantes. Dès le temps où notre récit est arrivé, il paraît, je l'ai su depuis, que la nièce de Jupien avait changé d'opinion sur Morel et sur M. de Charlus. Mon mécanicien, venant au renfort de l'amour qu'elle avait pour Morel, lui avait vanté, comme existant chez le violoniste, des délicatesses infinies auxquelles elle n'était que trop portée à croire. Et d'autre part, Morel ne cessait de lui dire le rôle de bourreau que M. de Charlus exerçait envers lui, et qu'elle attribuait à la méchanceté, ne devinant pas l'amour. Elle était, du reste, bien forcée de constater que M. de Charlus assistait tyranniquement à toutes leurs entrevues. Et, venant corroborer cela, elle entendait des femmes du monde parler de l'atroce méchanceté du baron. Or, depuis peu, son jugement avait été entièrement renversé. Elle avait découvert chez Morel, sans cesser de l'aimer pour cela, des profondeurs de méchanceté et de perfidie, d'ailleurs compensées par une douceur fréquente et une sensibilité réelle, et chez M. de Charlus une insoupçonnable et immense bonté, mêlée de dureté qu'elle ne connaissait pas. Ainsi, n'avait-elle pas supporté un jugement plus défini sur ce qu'était, chacun en soi, le violoniste et son protecteur, que moi sur André, que je voyais pourtant tous les jours, et sur Albertine, qui vivait avec moi. Les soirs où cette dernière ne me lisait pas à haute voix, elle me faisait de la musique, ou entamait avec moi des parties de dames, ou des causeries, que j'interrompais les unes et les autres pour l'embrasser. Nos rapports étaient d'une simplicité qui les rendait reposants. Le vide même de sa vie donnait à Albertine une espèce d'empressement et d'obéissance pour les seules choses que je réclamais d'elle. Derrière cette jeune fille, comme derrière la lumière pourprée qui tombait au pied de mes rideaux à Balbec, pendant qu'éclatait le concert des musiciens, se nacraient les ondulations bleuâtres de la mer. N'était-elle pas, en effet, elle au fond de qui résidait de façon habituelle une idée de moi si familière qu'après sa tante j'étais peut-être la personne qu'elle distinguait le moins de soi-même? La jeune fille que j'avais vue la première fois à Balbec, sous son polo plat, avec ses yeux insistants et rieurs, inconnue encore, mince comme une silhouette profilée sur le flot. Ses effigies gardées intactes dans la mémoire, quand on les retrouve, on s'étonne de leur dissemblance d'avec l'être qu'on connaît. On comprend quel travail de modelage accomplit quotidiennement l'habitude. Dans le charme qu'avait Albertine à Paris, au coin de mon feu, vivait encore le désir que m'avait inspiré le cortège insolent et fleuri qui se déroulait le long de la plage. Et comme Rachel gardait pour Saint-Loup, même quand il le lui eut fait quitter, le prestige de la vie de théâtre, en cette Albertine cloîtrée dans ma maison, loin de Balbec, d'où je l'avais précipitamment emmenée, subsistaient l'émoi, le désarroi social, la vanité inquiète, les désirs errants de la vie de bain de mer. Elle était si bien encagée que, certains soirs même, je ne faisais pas demander qu'elle quittât sa chambre pour la mienne. Elle que jadis tout le monde suivait, que j'avais tant de peine à rattraper filant sur sa bicyclette, et que le liftier même ne pouvait me ramener, ne me laissant guère d'espoir qu'elle vînt, et que j'attendais pourtant toute la nuit. Albertine n'avait-elle pas été, devant l'hôtel, comme une grande actrice de la plage en feu, excitant les jalousies quand elle s'avançait dans ce théâtre de nature, ne parlant à personne, bousculant les habitués, dominant ses amis? Et cette actrice si convoitée, n'était-ce pas elle qui, retirée par moi de la scène, enfermée chez moi, était à l'abri des désirs de tous, qui désormais pouvait la chercher vainement, tantôt dans ma chambre, tantôt dans la sienne, où elle s'occupait à quelque travail de dessin et de ciselure? Sans doute, dans les premiers jours de Balbec, Albertine semblait dans un plan parallèle à celui où je vivais, mais qui s'en était rapproché quand j'avais été chez Elstir. Puis il l'avait rejoint au fur et à mesure de mes relations avec elle, à Balbec, à Paris, puis à Balbec encore. D'ailleurs, entre les deux tableaux de Balbec, au premier séjour et au second, composés des mêmes villas, d'où sortaient les mêmes jeunes filles devant la même mer, quelle différence! Dans les amis d'Albertine du second séjour, si bien connus de moi, aux qualités et aux défauts si nettement gravés dans leur visage, pouvais-je retrouver ces fraîches et mystérieuses inconnues qui jadis ne pouvaient, sans que battît mon cœur, faire crier sur le sable la porte de leur chalet et en froisser au passage les tamaris frémissants. Leurs grands yeux s'étaient résorbés depuis, sans doute parce qu'elles avaient cessé d'être des enfants, mais aussi parce que ces ravissantes inconnues, actrices de la romanesque première année et sur lesquelles je ne cessais de quêter des renseignements, n'avaient plus pour moi de mystère. Elles étaient devenues obéissantes à mes caprices, de simples jeunes filles en fleurs, desquelles je n'étais pas médiocrement fière d'avoir cueilli, dérobée à tous, la plus belle rose. Entre les deux décors, si différents l'un de l'autre, de Balbec, il y avait l'intervalle de plusieurs années à Paris, sur le long parcours desquels se plaçaient tant de visites d'Albertine. Je la voyais aux différentes années de ma vie, occupant par rapport à moi des positions différentes qui me faisaient sentir la beauté des espaces interférés, ce long temps révolu où j'étais restée sans la voir, et sur la diaphane profondeur desquelles la rose personne que j'avais devant moi se modelait avec de mystérieuses ombres et un puissant relief. Il était dû d'ailleurs à la superposition non seulement des images successives qu'Albertine avait été pour moi, mais encore des grandes qualités d'intelligence et de cœur, des défauts de caractère, les uns et les autres insoupçonnés de moi, qu'Albertine, en une germination, une multiplication d'elle-même, une efflorescence charnue aux sombres couleurs, avait ajouté à une nature jadis à peu près nulle, maintenant difficile à approfondir. Car les êtres, même ceux auxquels nous avons tant rêvé qu'ils ne nous semblaient qu'une image, une figure de Benozzo Gozzoli, se détachant sur un fond verdâtre, et dont nous étions disposés à croire que les seules variations tenaient au point où nous étions placés pour les regarder, à la distance qui nous en éloignait, à l'éclairage. Ces êtres-là, tandis qu'ils changent par rapport à nous, changent aussi en eux-mêmes. Et il y avait eu enrichissement, solidification et accroissement de volume dans la figure jadis simplement profilée sur la mer. Au reste, ce n'était pas seulement la mer à la fin de la journée qui vivait pour moi en Albertine, mais parfois l'assoupissement de la mer sur la grève par les nuits de clair de lune. Quelquefois, en effet, quand je me levais pour aller chercher un livre dans le cabinet de mon père, mon ami, m'ayant demandé la permission de s'étendre pendant ce temps-là, était si fatigué par la longue randonnée du matin et de l'après-midi au grand air, que, même si je n'étais resté qu'un instant hors de ma chambre, en y rentrant, je trouvais Albertine endormie et ne la réveillais pas. Étendue de la tête aux pieds sur mon lit, dans une attitude d'un naturel qu'on aurait pu inventer, je lui trouvais l'air d'une longue tige en fleurs qu'on aurait déposée là, et c'était ainsi en effet. Le pouvoir de rêver, que je n'avais qu'en son absence, je le retrouvais à ces instants auprès d'elle, comme si, en dormant, elle était devenue une plante. Par là, son sommeil réalisait, dans une certaine mesure, la possibilité de l'amour. Seule, je pouvais penser à elle, mais elle me manquait, je ne la possédais pas. Présente, je lui parlais, mais j'étais trop absent de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n'avais plus à parler. Je savais que je n'étais plus regardé par elle, je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même. En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé, l'un après l'autre, ces différents caractères d'humanité qui m'avaient déçu depuis le jour où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux, des arbres, vie plus différente de la mienne, plus étrange, et qui cependant m'appartenait davantage. Son moi ne s'échappait pas à tout moment, comme quand nous causions, par les issues de la pensée inavouée et du regard. elle avait rappelé à soi tout ce qui d'elle était au dehors. Elle s'était réfugiée, enclose, résumée dans son corps. En le tenant sous mon regard, dans mes mains, j'avais cette impression de la posséder tout entière, que je n'avais pas quand elle était réveillée. Sa vie m'était soumise, exhalait vers moi son léger souffle. J'écoutais cette murmurante émanation mystérieuse, douce comme un zéphyr marin, féerique comme ce clair de lune, qu'était son sommeil. Tant qu'il persistait, je pouvais rêver à elle, et pourtant la regarder, et quand ce sommeil devenait plus profond, la toucher, l'embrasser. Ce que j'éprouvais alors, c'était un amour devant quelque chose d'aussi pur, d'aussi immatériel dans sa sensibilité, d'aussi mystérieux, que si j'avais été devant les créatures inanimées que sont les beautés de la nature. Et, en effet, dès qu'elle dormait un peu profondément, elle cessait seulement d'être la plante qu'elle avait été. Son sommeil, au bord duquel je rêvais, avec une fraîche volupté dont je ne me fusse jamais lassée et que j'eusse pu goûter indéfiniment, c'était pour moi tout un paysage. Son sommeil mettait à mes côtés quelque chose d'aussi calme, d'aussi sensuellement délicieux que ces nuits de pleine lune dans la baie de Balbec, devenue douce comme un lac, où les branches bougent à peine, où, étendu sur le sable, l'on écouterait sans fin se briser le reflux. En entrant dans la chambre, j'étais restée debout sur le seuil, n'osant pas faire de bruit. Et je n'en entendais pas d'autre que celui de son haleine venant expirer sur ses lèvres, à intervalles intermittents et réguliers, comme un reflux, mais plus assoupi et plus doux. Et au moment où mon oreille recueillait ce bruit divin, il me semblait que c'était, condensé en lui, toute la personne, toute la vie de la charmante captive, étendue là, sous mes yeux. Des voitures passaient bruyamment dans la rue, son front restait aussi immobile, aussi pur, son souffle aussi léger, réduit à la simple expiration de l'air nécessaire. Puis, voyant que son sommeil ne serait pas troublé, je m'avançai prudemment, je m'asseyai sur la chaise qui était à côté du lit, puis sur le lit même. J'ai passé de charmants soirs à causer, à jouer avec Albertine, mais jamais d'aussi doux que quand je la regardais dormir. Elle avait beau avoir, en bavardant, en jouant aux cartes, ce naturel qu'une actrice n'eût pu imiter, c'était un naturel au deuxième degré que m'offrait son sommeil. Sa chevelure, descendue le long de son visage rose, était posée à côté d'elle sur le lit, et parfois une mèche, isolée et droite, donnait le même effet de perspective que ces arbres lunaires, grêles et pâles, qu'on aperçoit tout droit au fond des tableaux raphaéliques d'Elstir. Si les lèvres d'Albertine étaient closes, en revanche, de la façon dont j'étais placée, ses paupières paraissaient si peu jointes que j'aurais presque pu me demander si elle dormait vraiment. Tout de même, ses paupières abaissées mettaient dans son visage cette continuité parfaite que les yeux n'interrompaient pas. Il y a des êtres dont la face prend une beauté et une majesté inaccoutumées pour peu qu'ils n'aient plus de regard. Je mesurais des yeux Albertine, étendue à mes pieds. Par instant, elle était parcourue d'une agitation légère et inexplicable, comme les feuillages qu'une brise inattendue convulse pendant quelques instants. Elle touchait à sa chevelure, puis, ne l'ayant pas fait comme elle le voulait, elle y portait la main encore, par des mouvements si suivis, si volontaires, que j'étais convaincue qu'elle allait s'éveiller. Nullement. Elle redevenait calme, dans le sommeil qu'elle n'avait pas quitté. Elle restait désormais immobile. Elle avait posé sa main sur sa poitrine, en un abandon du bras si naïvement puéril que j'étais obligée, en la regardant, d'étouffer le sourire que par leur sérieux, leur innocence et leur grâce nous donnent les petits-enfants. Moi, qui connaissais plusieurs Albertines en une seule, il me semblait en voir bien d'autres encore reposer auprès de moi. Ses sourcils, arqués comme je ne les avais jamais vus, entouraient les globes de ses paupières comme un doux nid d'alcyon. Des races, des atavismes, des vices reposaient sur son visage. Chaque fois qu'elle déplaçait sa tête, elle créait une femme nouvelle, souvent insoupçonnée de moi. Il me semblait posséder non pas une, mais d'innombrables jeunes filles. Sa respiration, peu à peu plus profonde, soulevait maintenant régulièrement sa poitrine, et, par-dessus elle, ses mains croisées, ses perles, déplacées d'une manière différente par le même mouvement, comme ses barques, ses chaînes d'amarres que fait osciller le mouvement du flot. Alors, sentant que son sommeil était dans son plein, que je ne me heurterais pas à des écueils de conscience recouverts maintenant par la pleine mer du sommeil profond, délibérément, je sautais sans bruit sur le lit. Je me couchais au long d'elle, je prenais sa taille d'un de mes bras, je posais mes lèvres sur sa joue et sur son cœur, puis sur toutes les parties de son corps. Posais ma seule main restée libre et qui était soulevée aussi, comme les perles, par la respiration d'Albertine. Moi-même, j'étais déplacée légèrement par son mouvement régulier. Je m'étais embarquée sur le sommeil d'Albertine. Parfois, il me faisait goûter un plaisir moins pur. Je n'avais pour cela besoin de nul mouvement. Je faisais pendre ma jambe contre la sienne comme une rame qu'on laisse traîner et à laquelle on imprime de temps à autre une oscillation légère, pareil au battement intermittent de l'aile qu'ont les oiseaux qui dorment en l'air. Je choisissais pour la regarder cette face de son visage qu'on ne voyait jamais et qui était si belle.